Et bonjour à tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous allez bien?
Oui.
Oui, vous êtes avec moi? Vous me suivez? J'ai rien dit encore, mais j'ai l'impression que vous me suivez. C'est bon. Et en fait, comme Mélodie nous a invités à prier, ben on va prier pour les rapidement, mais quand même avec confiance pour les sujets qu'on a mentionnés. Oui, Éternel, on pense à ceux qui vont se faire baptiser, donc Thierry et Sandra, qui sont ici ce matin, donne-leur une bonne semaine où ils sentent ta présence. Protège-les de tout mal. Et il y en a d'autres aussi qui sont à différents niveaux dans le cours de baptême. Et ce n'est pas impossible que quelqu'un se joigne à eux. Veuille bénir chacun et chacune dans leur cours de baptême, sachant que Seigneur, merci, on voudrait avoir des baptêmes souvent et nombreux parmi nous, car c'est le signe que tu es à l'œuvre et on te dit merci. Et pour les malades, on te remet tous ceux qui souffrent dans leur santé. Ô Père, accompagne-les Père, donne-leur ta force et amène la guérison dans leur corps, mais si c'est une guérison qui va se faire par étapes ou avec des délais, donne-leur la force dans leur âme pour persévérer dans la foi, Seigneur. Et Éternel, on te remet aussi, on a parlé de la paix dans le monde, il y a des démarches pour amener plus de sécurité en Haïti. Ô Père, utilise les humains qui veulent intervenir pour amener la sécurité dans ce pays. Père, aide tous ceux qui interviennent pour la sécurité dans l'est du Congo. Ô, nous te supplions aussi pour la Syrie, le Yémen et bien d'autres pays. Et surtout, accompagne tes enfants. Tes enfants qui témoignent de toi, qui persévèrent, parfois qui doivent fuir, qui se demandent qu'est-ce qui se passe, soit avec tes enfants dans les pays tourmentés. Nous te prions aussi, finalement, de bénir le message de ta parole maintenant. Rends-nous attentifs pour discerner ce qui est pour nous, ce qui est pour moi, dans ta parole aujourd'hui. Au nom de Christ. Amen. Alors, on retourne dans l'Exode ce matin. Et ce message s'intitule « Écoutons ceux du dehors ». Soyons à l'écoute de ceux du dehors. Cet été, on a parlé un peu de l'Exode, on a continué notre série, mais on a aussi parlé de la critique avec Pasteur Mélodie. Et on a vu qu'il y a un côté négatif à la critique dans l'Église, mais on a vu aussi que ça peut être positif. Tout dépend de l'attitude dans laquelle est donnée la critique, l'attitude de celui qui la donne, mais aussi celui ou celle qui la reçoit. Dans mon expérience, en général, recevoir une critique, c'est pas facile. Oui, elle peut arriver à un moment imprévu. Elle peut arriver à un moment où, en fait, je me sens bien dans ce que je fais. Je me sens fier de ce que je fais. Je me sens bon. Puis la critique vient dégonfler mon ballon, pour ainsi dire. Un peu avec « Oh, je me bombe le torse. » Ben là, tout d'un coup, mon torse y est débombé par une parole de critique. Et ça peut venir à travers une personne imprévue. Je vais vous raconter une histoire. Peut-être que je l'ai déjà racontée à l'Oasis, mais en tout cas, écoutez bien. Quand j'étais dans la jeune vingtaine, j'étais un jeune croyant en Jésus-Christ. Je trouvais ça merveilleux d'avoir découvert la foi et Dieu. Et à cette époque, je souffrais beaucoup de l'asthme. L'asthme, vous le savez, plusieurs d'entre vous, c'est une maladie respiratoire. Et j'étais un jeune croyant zélé et j'avais des amis jeunes croyants zélés. Et dans un élan de foi, j'ai prié avec force pour que Dieu me guérisse de mon asthme. Et pour démontrer à Dieu ma foi, j'ai jeté tous mes médicaments dans la poubelle. Aujourd'hui, je sais que Dieu voulait me guérir, mais pas dans le timing que moi, je lui demandais à ce moment-là. Je voulais une guérison forte et immédiate. Mais c'est seulement plusieurs années plus tard, c'est seulement dans ma quarantaine que tous mes symptômes d'asthme ont diminué puis ont disparu. Ça fait peut-être 20 ans que je ne prends plus aucun médicament pour mon asthme. Extraordinaire! Oui. Alors, est-ce que c'était une guérison miraculeuse? Intervention spirituelle de Dieu seulement? Est-ce qu'il y a un élément naturel aussi dans ma guérison? Peut-être un peu des deux. On a déjà vu que Dieu parfois combine les deux. Mais peu importe, Dieu y a répondu à ma prière et m'a guéri dans le temps que lui voulait. Merci d'avoir applaudi parce que c'est tellement merveilleux d'être libéré d'une maladie comme ça. Mais dans ma jeune vingtaine, j'avais prié. Puis, comme je vous ai dit, j'ai jeté tous mes médicaments dans la poubelle. Et quelques jours plus tard, je me suis retrouvé à l'urgence avec une très grosse crise d'asthme prolongée pendant un long moment. Je ne pouvais plus respirer. Puis quand tu ne peux plus respirer, respirer avec énormément d'efforts pendant de nombreuses heures et jours, je me suis retrouvé sur le dos et à l'urgence. Et la docteure urgentologue, qui semblait avoir à peu près le même âge que moi, j'y ai pas demandé son âge, elle m'a bien soigné, elle m'a donné les médicaments forts qu'il fallait pour ouvrir mes bronches. Et entre nous, j'étais bien content parce que finalement, je respirais, mais j'étais un peu mélangé par rapport à ce qui m'arrivait. Elle m'a dit, jeune homme ou monsieur, je ne me souviens pas qu'est-ce qu'elle a dit, mais elle m'a dit, votre asthme est pas mal sérieux et je vois dans votre dossier que vous avez des ordonnances pour des médicaments. Est-ce que vous les prenez? Là, j'étais obligé de lui confier qu'est-ce que j'avais fait. Puis là, elle m'a parlé en médecin. Là, elle était outrée. Elle m'a parlé dans le casque, comme on dit. Et elle n'a pas critiqué Dieu, parce que j'y ai dit, voilà, j'ai prié, j'ai jeté mes médicaments. Elle n'a pas critiqué Dieu, elle n'a pas critiqué ma foi, mais elle m'a dit, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ce que tu as fait, ce n'est pas intelligent. À cause de ce que tu as fait, tu es ici aujourd'hui avec ce gros problème, puis moi aussi. Et puis, avec les tests qu'on a faits, ton niveau d'oxygène est tellement bas depuis un bout de temps que ça peut causer des dommages à ton corps plus graves encore. Bon. Recevoir la critique, je l'ai dit, c'est jamais agréable. Mais j'ai décidé d'accepter sa critique. Et son conseil, à la sortie de l'hôpital, je suis retourné à la pharmacie, j'ai commencé à reprendre mes médicaments. C'est mon histoire, on ne discutera pas de ça. Dieu, comme je vous ai dit, a continué son œuvre. Et selon moi, c'était la bonne décision de commencer à reprendre mes médicaments. Et j'ai senti que Dieu m'avait parlé à travers cette jeune médecin qui n'était pas nécessairement croyante. Parce que quand on vit dans le monde de la foi, on est connecté avec le ciel et ça nous met dans une nouvelle catégorie d'humains, c'est vrai. On peut être tenté de ne pas écouter ceux qui viennent du dehors. Mais peut-être que Dieu les envoie envers nous dans des circonstances particulières pour nous donner de la sagesse pour notre vie. Parmi nous ce matin, il y en a plusieurs qui sont adultes et qui retournent quand même sur les bancs d'école. Est-ce qu'il y a des personnes qui prennent des cours cet automne? Ah, en voilà une. En voilà deux. On n'est pas nombreux. Trois. Il y en a peut-être plus. En fait, en retournant dans les bancs d'école, vous êtes en train de vous exposer, d'explorer la sagesse humaine dans le domaine que vous allez apprendre. Donc déjà là, vous êtes en train d'écouter, de faire confiance à des gens du dehors. Et on peut se poser la question, c'est quoi le bien fondé de ça si on est déjà, comme, on est déjà assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ? Pourtant, on le fait avec l'appui de l'Oasis. Un autre domaine, l'administration de l'Église. On est en train de réécrire notre règlement intérieur. On a aussi des politiques qu'on écrit, qu'on décide. Par exemple, nos politiques intérieures par rapport à la sécurité des enfants dans nos ministères. Oui, on lit la Bible pour écrire ces politiques-là, mais pas seulement la Bible. On va aller puiser dans ce que nous disent les compagnies d'assurance. On va aller puiser dans certaines politiques qu'on voit qui sont bien faites dans les écoles et dans d'autres organismes, dans les lois du Québec et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de peut-être mettre trop d'eau dans notre foi, de compromettre notre foi en nous exposant au conseil ou à l'enseignement de ceux du dehors? Après tout, Jésus nous demande d'être différents. Il nous demande de mettre Dieu en premier. Il nous demande d'être séparés du monde. Quelle attitude avoir? Eh bien, on va lire un texte de l'Exode aujourd'hui, Exode 18, qui va nous aider dans ce domaine-là. Je vous invite à lire un épisode vraiment intéressant qui mériterait aussi de longues discussions. On va le lire et je vais le commenter. C'est, donc, ceux qui ont leur Bible, on va lire le chapitre en entier, c'est assez long. Restez avec moi ici. Oups, où est mon texte? Hein? Ah, voilà, le voilà, OK. Oui, ça, dans la photo que vous avez vue, c'était l'urgentologue qui m'a parlé dans le casque. Non, en fait, je l'ai trouvé à l'Internet. OK, lisons le texte. Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit ce que l'Éternel avait fait pour sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, la femme de Moïse. C'était après son renvoi. Donc, Moïse avait renvoyé Séphora dans la maison de son père. Et Jéthro prit aussi les deux fils de Séphora. L'un s'appelait Gershom, car Moïse avait dit: « Je suis en exil dans un pays étranger. » Donc, le nom Gershom en hébreu a l'idée d'être exilé. Et l'autre fils s'appelait Éliézer, car il avait dit, Moïse avait dit, « Le Dieu de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée du Pharaon. » Jéthro, le beau-père de Moïse, vint avec les fils et la femme de Moïse, au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moïse, ton beau-père Jéthro, moi, ton beau-père Jéthro, je viens te trouver avec ta femme et ses deux fils l'accompagnent. » Moïse sortit à la rencontre de son beau-père et se prosterna et il l'embrassa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, puis ils entrèrent dans la tente de Moïse. Et Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les difficultés aussi qu'ils avaient rencontrées en chemin et la façon dont l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël en le délivrant de la main des Égyptiens. Et il dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de celle du Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, puisque l'arrogance des Égyptiens est retombée sur eux. » Et Jéthro, le beau-père de Moïse, offrit un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer à ce repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. OK, c'est pas fini l'histoire. Parce que le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple. Et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Et le beau-père de Moïse vit tout ce que Moïse faisait pour le peuple et dit, « Que fais-tu là pour le peuple? Pourquoi sièges-tu tout seul? Et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Et Moïse répondit à son beau-père, « Mais c'est que le peuple vient. Il vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi. Hein? Je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. » Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne ensuite les prescriptions au peuple et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes des petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon et tout le peuple parviendra en paix à sa destination. Moïse écouta son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit parmi tout Israël des hommes capables et il les établit sur le peuple, chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Il jugeait le peuple de manière permanente. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et jugeaient eux-mêmes toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro retourna dans son pays. Amen. Amen. Quelle histoire intéressante! En fait, c'est une histoire où le Seigneur nous invite à considérer le bon exemple de Moïse. Le bon exemple de Jéthro aussi, mais en particulier le bon exemple de Moïse, qui nous intéresse en particulier ce matin. Moïse est humble devant Dieu pour écouter, ouvert à ce que Dieu cherche à lui communiquer, peut-être par un chemin imprévu. Il accueille la critique de son beau-père. Il l'accueille, c'est pas facile. Il l'a accueilli. Et pas seulement la critique, mais encore mieux, un conseil détaillé. C'est quand même le fun. Jethro arrive pas juste avec de la critique, mais avec une critique constructive, avec un chemin. Un chemin pour faire d'une nouvelle manière. Et on va voir que Dieu va vraiment bénir cette décision de Moïse pour écouter. On va voir son succès et on va voir aussi le succès de tout le peuple grâce à cette interaction de ce jour-là entre deux hommes qui ont été sages. Et oui, la chrétienne, le chrétien est appelé à suivre l'exemple de Moïse et je le formule ainsi pour nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Dieu me demande d'être différent du monde à cause de Christ, oui, mais aussi d'être à l'écoute de la sagesse du monde lorsque c'est approprié pour enrichir mon œuvre pour le Christ. Alors, je ne dis pas tout écouter et obéir sans réflexion, sans discernement, mais lorsque c'est approprié. On voit bien que Moïse, avant qu'attire soit des conseils du Pharaon, comme « fais qu'est-ce que je te dis », il discerne bien que c'est des mauvais conseils. En même temps, ici, quelqu'un qui vient du dehors, il discerne que « oh, il y a de la sagesse que Dieu veut pour moi là-dedans ». Donc, je répète, Dieu me demande à moi aussi d'être, oui, différent du monde à cause de Christ, mais aussi d'être à l'écoute de la sagesse du monde lorsque c'est approprié pour enrichir mon œuvre pour Christ. Est-ce qu'il y a un Jethro dans ta vie en ce moment qui peut-être cherche à te transmettre une sagesse que Dieu voudrait utiliser dans ta vie? Peut-être que pour différentes raisons, tu te méfies de ce Jethro ou tu ne le prends pas au sérieux. Ce que Dieu est peut-être en train de te demander, oh, écoute plutôt, examine ce qu'il est en train, ce qu'elle est en train de te dire. Quand on regarde le conseil de Jethro, il y a plusieurs éléments qui pourraient être trompeurs, c'est-à-dire qu'il aurait pu amener Moïse à ne pas écouter. Moïse a écouté, mais il aurait pu ne pas. Un de ces aspects-là, c'est que Jethro, il vient du dehors. En fait, Jethro, on apprend qu'il est une personne haut placée dans un peuple extérieur à Israël qui s'appelle Madian. Il est le grand prêtre de Madian. Et on apprend plus tard dans le livre de Josué, des juges, que Madian va faire partie des ennemis d'Israël dans les guerres. Mais durant la vie de Moïse, à cause du fait que Moïse a été recueilli comme réfugié par un Madianite, bien justement, Jethro. Il a un autre nom aussi, Bethuel, mais ici, ça, on utilise son autre nom, Jethro. Et il a marié la fille de Jethro, qui fait que il est marié à une Madianite. Il y a comme une amitié partielle entre les deux peuples à ce moment-là. Et comme j'ai dit, Jethro est le grand prêtre de Madian et la religion de ce peuple, oui, a des points en commun avec la foi d'Israël. On le discerne dans le texte. On voit que notre ami Jethro est en processus de connaissance de l'Éternel. Il va dire au verset 11, Parce qu'en fait, il est attiré par ce que l'Éternel est en train de faire. Et quand Moïse lui raconte plus, il va dire, « Wow, je vois vraiment que l'Éternel, là, votre Dieu, est plus grand que tous les autres dieux. » Il est en processus d'apprentissage. Bien, comme les membres d'Israël aussi sont en processus d'apprentissage, Dieu est en train de se révéler à eux. Mais, à mon avis, Jéthro n'est pas encore rendu à la foi vraiment pure d'Israël. Et il n'a pas cette même position de Moïse. Moïse parlait directement avec l'Éternel déjà depuis son appel au buisson ardent. Par ailleurs, il y a un autre élément. C'est que, j'ai remarqué, c'est 12 fois que c'est dit dans l'histoire que Jéthro, c'est le beau-père de Moïse. C'est 12 fois que c'est rappelé. Donc, il y avait une connexion de famille. Et ça, ça joue aussi. Et vous me direz, ah, mais c'est une belle connexion. Mais moi, mon beau-père, j'ai trouvé ça pas évident. Il est avec le Seigneur maintenant. C'est pas évident de négocier la relation avec le beau-père. Alors, Moïse, il sait qu'il doit jouer le jeu. Il est poli. Il est respectueux avec son beau-père. Mais c'est possible qu'il y avait des malaises entre Moïse et Jéthro. Moïse, quand il a commencé sa mission, il a amené sa femme avec lui. Puis après, à un certain moment, il l'a renvoyée chez ses parents, chez son père. Et ça ne devait pas être facile pour Séphora, la femme de Moïse. Et c'est possible que Jéthro l'a entendu pleurer la nuit parce qu'elle était séparée de son mari et de retour dans la maison de son père, pas nécessairement parce qu'elle le voulait. En tout cas, on ne connaît pas les détails. Donc, Jéthro fait ce long voyage en partie pour des raisons familiales. Il amène la femme et les enfants de Moïse, peut-être pour lui rappeler ses devoirs familiaux et de conjoint. On n'est jamais prophète dans sa propre famille, nous dit Jésus. Moi, je trouve que Jéthro n'était pas nécessairement bien placé pour être le prophète dans la vie de Moïse. En plus, pour lui dire comment faire sa job. Il est appelé par Dieu pour mener Israël, pour être l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Moïse se sentait important et avec raison, mais je veux dire, que le beau-père vienne me dire comment faire ma job. Moi, ça m'est déjà arrivé. Jamais pas ça. Je peux vous le dire. C'est une position délicate. Mais on voit que Moïse a l'humilité d'écouter. Et toi? Es-tu à l'écoute de la personne mal placée qui a peut-être un conseil à te donner? Peut-être que ce conseil vient de Dieu. Un deuxième aspect, c'est que la sagesse que Jéthro apporte, c'est une sagesse, on va dire, humaine. Hein? Il y a beaucoup de choses bonnes et utiles et même vraiment efficaces dans nos vies qui viennent de ce que les humains ont découvert par leur propre réflexion, leur propre science. Dieu est là pour les aider, mais parfois d'une manière où ils sont inconscients. Là, vous voyez un professeur de science ici ou de mathématiques et pour symboliser un peu le fait qu'il y a beaucoup de science parmi les humains. Oh, je vois une prof de maths qui sourit. Oui, les maths, on va dire, viennent de Dieu, mais on peut en discuter, mais ne sont pas révélés par des paroles du Saint-Esprit nécessairement. Non, d'habitude, non. C'est Dieu qui aide les humains à trouver ça par le raisonnement. Mais voilà que Madian, le peuple de Jéthro, c'est un peuple païen qui existe depuis bien des générations et qui a son organisation politique et administrative et juridique. Israël est rendu à ses tout débuts. Il y avait les patriarches, mais en sortant d'Égypte, ils ne sont pas organisés. Ils étaient organisés par Pharaon, puis ceux qui les exploitaient. Et Jéthro est en train de dire à Moïse, d'une certaine manière, « Moïse, regarde, c'est pas bon, là, le système que tu utilises. Voici comment ça fonctionne dans mon peuple. » Puis, ça fait plusieurs générations qu'on fonctionne de même. On a des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 1000. Ça marche. Puis, tu vas voir, ça va t'aider dans ton fardeau. Moïse, je te propose d'utiliser notre système. À Moïse, qui a déjà commencé à recevoir des révélations divines, qui avait son système d'aller dans la tente pour entendre les paroles de Dieu, aurait pu répondre à Jéthro, ben non. C'est très gentil, beau papa, ben gentil, et avec tout mon respect, moi, je communique direct avec Dieu. C'est lui qui va me donner ses lois, qui va me donner l'administration politique de mon peuple. Et c'est quand même étonnant, Moïse est à l'écoute. Il est humble. Il est prêt à valoriser ses richesses humaines qui sont établies dans un peuple extérieur. Il est en train de considérer, mais peut-être qu'il y a de la sagesse que Dieu approuve là-dedans. Finalement, il va finir par dire, votre système, il est bon. Ça m'intéresse, je vais l'essayer. Je vais le mettre en pratique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre du Deutéronome, Moïse revient là-dessus. Vous pouvez vérifier, Deutéronome 1, versets 9 à 18. Le système que Jéthro lui explique, Moïse le répète comme une loi de Dieu. Dans la loi qu'on appelle la loi de Moïse, donc il a intégré dans la loi divine quelque chose qui est venu comme un conseil de quelqu'un de l'extérieur. Et dans cette loi, il y a énormément de choses qui viennent direct de la parole de Dieu que Moïse a écouté puis retranscrit mais sur la montagne. Mais il y a aussi cette parole de Jéthro. Nous, on est le peuple de Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'en tant que groupe, on est ouvert pour considérer la sagesse que Dieu a permis à d'autres de découvrir? Est-ce qu'on a cette vision grande que Dieu a, que Moïse a concernant Dieu, qu'il est en action partout dans le monde pour aider les humains à découvrir la sagesse? J'aimerais amener un autre point. Peut-être vous serez d'accord, peut-être vous ne serez pas d'accord. Moi, je trouve que Jéthro, dans son conseil, il a une approche modeste. Oui, il est direct, il est clair, et il a beaucoup de confiance dans sa manière de parler à Moïse, mais d'un autre côté, il ne s'impose pas à Moïse. Il a observé un problème par accident. Il n'était pas venu pour surveiller son beau-fils. Il est venu pour d'autres raisons, on l'a vu. Mais par accident, il a vu, « Wow, Moïse, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas t'épuiser. » Par accident, il observe et ensuite, il communique son conseil, mais avec la main ouverte. Non pas avec la main serrée. Donner un conseil, donner une parole, ça aussi, ça peut arriver dans l'Église. On peut peut-être sentir que Dieu nous communique quelque chose pour l'Église. Mais le donner avec la main serrée, ça serait comme dans le style. Voilà, parole de l'Éternel, voici ce que j'ai reçu. Obéissez à la voix de l'Éternel et je vais surveiller que vous le mettez bien en pratique. Ça arrive des fois que dans l'Église, on est autoritaire comme ça les uns avec les autres. Par contre, regardons l'exemple de Jéthro qui va dire, « Je vais te donner un conseil, Moïse, et que Dieu soit avec toi. » Et plus tard, tu vas être béni si tu fais ce que je te dis, si Dieu te l'ordonne. Hein? Vers la fin du passage. Autrement dit, que Dieu te guide pour discerner si ce que je te dis a de la sagesse, a de l'utilité pour toi. Je suis pas mal convaincu que oui, mais tu es libre. Amène ça devant Dieu. Parfois, c'est plus facile de faire qu'est-ce que quelqu'un me dit parce que c'est comme j'ai peur de lui ou j'ai peur d'elle, puis je veux pas la contrarier, surtout qu'elle m'a dit qu'elle va... Elle va s'assurer que je fais qu'est-ce que je dis. Fait que c'est plus facile juste de le faire. Mais en fait, c'est beaucoup mieux d'écouter plutôt les gens qui ont de la sagesse, mais qui sont modestes en reconnaissant que je dois tout amener devant Dieu pour discerner. Comprendre ma liberté. Devant Dieu. Moïse est à l'écoute de cette personne modeste. Un conseil donné dans la crainte de Dieu et qui va sauver le peuple tout entier. Alors, je reviens à toi encore une fois. Es-tu à l'écoute des Jéthro dans ta vie qui sont peut-être doux dans leur approche? Mais qui ont de l'autorité à cause de leur intelligence, de leur sagesse. Ou bien est-ce que tu es une personne qui agit seulement quand tu es forcé? Ça, c'est pas bon, ça. Il me semble, est-ce que c'est le psaume 51 qui dit, ou le psaume 32 qui dit... restez pas comme les anons, les mulets qu'il faut les tirer par la bride pour leur faire changer de direction. Mais devant Dieu, apprenons à obéir à sa sagesse, à sa voix. Pas seulement quand on est forcé. Alors, on va conclure. Ce matin, on a vu un épisode de succès. Deux hommes sages et humbles qui se rencontrent, le courant passe, puis la bénédiction descend. Parce qu'on a vu une manière de le formuler pour notre temps, pour notre vie chrétienne, c'est « Dieu me demande, oui, d'être différent du monde à cause de Christ ». Mais aussi d'être à l'écoute de la sagesse du monde, la sagesse du dehors, lorsque c'est approprié, pour enrichir mon œuvre pour Christ. Est-ce qu'il y a un Jéthro dans ta vie que Dieu te demande d'écouter plus attentivement? Peut-être aussi que tu es en train d'écouter plusieurs Jéthro déjà, et tu profites de leur sagesse. Peut-être c'est le moment de le reconnaître et de dire merci à Dieu. Peut-être de leur dire merci à eux. Parce qu'ils sont un bienfait dans ta vie. Parfois, ça peut être un chemin par lequel ce Jéthro va s'approcher de Christ, que tu valorises la sagesse qui est en eux. Ayons le cœur ouvert pour écouter et apprécié. Utilisons le même principe que Paul nous invite à utiliser entre nous dans l'Église. Examinez tout et retenez ce qui est bon. Examinez tout, retenez ce qui est bon. On prie? Est-ce qu'on prie ensemble? Éternel, oh merci pour ta parole, pour ce chapitre riche qui pose des questions. Et merci pour les Jéthro que tu envoies dans nos vies, dans ma vie. Donne-nous de ne pas les mépriser et d'être à ton écoute par rapport à toutes ces choses. Et je te prie cela pour moi, qui que tu es, tu peux dire que moi, c'est moi personnellement, j'ai besoin peut-être d'être plus attentif à tel conseil que j'ai entendu, à telle parole qui m'est venue, à telle autorité que tu as mise dans ma vie. Pour l'Oasis aussi, Père, tu vois que cet automne, le conseil veut réviser notre règlement intérieur, qui est une exigence du gouvernement. Et cette révision, on a mis le délai là-dessus pendant de nombreuses années, mais on a décidé de commencer cet automne parce que c'est un conseil qui nous vient. C'est important d'avoir des règlements clairs et à jour. Donc, en tant que qu'assemblée, donne-nous aussi d'être à l'écoute lorsque c'est approprié de la sagesse qui vient de l'intérieur et de l'extérieur. Nous prions toutes ces choses au nom de Christ. Amen.